Laudetur Jesus Christus.
Face à l'injustice de la faim, un changement radical est nécessaire. Il doit commencer de l'intérieur. C'est en substance le cœur du message du pape lu hier à l'ouverture du pré-sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires. Nous y revenons dans quelques secondes. Dans l'actualité internationale, la Tunisie, éviction de plusieurs ministres, suspension des travaux du Parlement. Le président Saed veut reprendre la main. La population le soutient, l'opposition crie au coup d'État et la communauté internationale craint pour la démocratie. Dans ce journal également, le Liban qui a un nouveau Premier ministre, Najib Mikati, c'est son nom. Il doit réussir là où tous ont échoué, former un gouvernement. L'homme d'affaires dispose d'atouts certains pour cela, mais aussi de faiblesses, nous le verrons. Et puis, gros plan dans notre dossier sur le Yémen, où la guerre continue devant une communauté internationale impuissante et ce sont les civils qui paient le prix fort de ce conflit oublié. Le HCR sonne l'alarme une fois de plus.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous. Le pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se tient donc à Rome en ce début de semaine. Et dans un message au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lu hier après-midi par le secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Gallagher, le pape François a rappelé qu'il est du devoir de tous d'éradiquer l'injustice de la faim dans le monde, et cela par des politiques courageuses. Marine Henriot.
L'appel du pape contre l'insécurité alimentaire est fort. Il demande un changement radical. Il ne suffit pas de miser sur la technologie pour augmenter la production si les résultats sont de stériliser la nature, détaille François, qui prône une transformation prudente et correcte des systèmes alimentaires. Le changement doit commencer de l'intérieur, basé sur une nouvelle mentalité, une approche holistique mettant au centre la dignité de la personne. Ensuite, poursuit François, il faut assurer une alimentation suffisante au niveau mondial et promouvoir un travail décent au niveau local afin de pouvoir nourrir le monde d'aujourd'hui sans compromettre l'avenir. Il faut également redonner au secteur agricole un rôle central. Les petits agriculteurs et les familles d'agriculteurs doivent être des acteurs privilégiés dont les connaissances traditionnelles ne doivent pas être négligées ou ignorées afin de mieux comprendre leurs besoins réels. Chacun a la responsabilité de réaliser un monde dans lequel le pain, l'eau, les médicaments, et le travail coulent en abondance et atteignent d'abord les plus pauvres, a conclu le Saint-Père.
Marine Henriot, et puis notons que le sommet proprement dit sur les systèmes alimentaires se tiendra en septembre. Et la question justement des systèmes alimentaires et de la faim est plus que jamais d'actualité à Madagascar. Et l'ONU s'inquiète, ce sont 500 000 enfants qui vont souffrir de malnutrition aiguë, surtout dans le sud de l'île frappée par une grave sécheresse. Un chiffre multiplié par 4 depuis 2020. Au total, 1,4 million de Malgaches souffrent de la faim dans cette région. C'est aujourd'hui qu'aura lieu un événement attendu par tous en Côte d'Ivoire, la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo. Ces retrouvailles interviennent 10 ans après la crise post-électorale meurtrière qui avait opposé leurs partisans respectifs. Ce tête-à-tête se déroulera en fin d'après-midi au palais présidentiel. Il est considéré comme une étape cruciale du processus de réconciliation dans le pays. La crise politique et institutionnelle plonge la Tunisie dans l'inconnu. Après avoir suspendu les travaux du Parlement et limogé son chef de gouvernement, le président Kais Saied a évincé 3 autres ministres, ceux de l'Intérieur, de la Défense et de la Justice. Si cette reprise en main du pouvoir a reçu les soutiens d'une grande partie de la classe politique et de la population, elle suscite en revanche les craintes de la communauté internationale qui appelle le pays et son président à respecter les acquis de la démocratie. À Tunis, Mohamed Haddad.
L'ex-chef du gouvernement Hichem Chichi a réagi par communiqué lundi soir. Il renonce à toute fonction au sein de l'État et se tient prêt pour une passation avec la personne que le chef de l'État, Kais Saied, choisira. Plus tôt dans la journée, un décret présidentiel a démis le chef du gouvernement, mais aussi la ministre de la Justice et le ministre de la Défense nationale. Les réactions sont mitigées au sein des institutions et des partis en Tunisie. Il y a d'abord ceux qui appellent à l'établissement d'une feuille de route claire et précise. Cependant, le Parti du Peuple, de tendance nationaliste, a été l'un des rares à soutenir ouvertement Kais Saied. Abil Moussi, une des figures de l'opposition au parti islamiste Nahda, a appelé le chef de l'État à être à la hauteur des attentes des Tunisiens, sans se ranger clairement du côté de Kais Saied et la féliciter, je cite, « le peuple tunisien pour avoir été libéré du fardeau des islamistes ». Les États-Unis, ou encore quelques pays européens, se sont dit inquiets et s'attendent à un rétablissement des institutions démocratiques dans les plus brefs délais. À Tunis, Mohamed Haddad pour Radio Vatican.
L'Algérie voisine, elle, a reçu la visite d'un haut responsable du département d'État américain. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des ministres. Objectif, renforcer le dialogue stratégique, surtout en matière de sécurité régionale, menacée par les conflits au Sahel, en Libye, ainsi qu'au Sahara occidental. Un nouveau drame de l'immigration en mer. Une embarcation a chaviré au large de la Libye hier lundi. 57 personnes seraient mortes noyées, selon les chiffres de l'OIM. Moins d'une semaine après le désistement de Saad Hariri, le Liban a un nouveau Premier ministre, Najib Mikati. Député et homme d'affaires a été choisi par 72 députés. C'est à lui qu'échoit la mission désormais de former un gouvernement et à sortir le Liban de la crise. Mikati s'est dit prêt à tout faire pour cela, notamment à mettre en œuvre les réformes exigées par la communauté internationale. Son portrait avec Paul Ralifé.
Après 2005 et 2011, c'est la troisième fois que Najib Mikati, âgé de 65 ans, est choisi pour diriger l'exécutif libanais. À la tête d'une des plus grosses fortunes du pays, cet homme d'affaires est le député de Tripoli, la ville la plus pauvre du Liban. Najib Mikati prend les rênes du pouvoir à un moment critique de l'histoire du pays. Il a assuré dans une déclaration qu'il n'aurait pas accepté sa mission difficile s'il n'avait pas reçu des garanties internationales. Il bénéficie aussi du soutien des principaux blocs parlementaires musulmans sunnites et chiites, y compris le Hezbollah. Najib Mikati est toutefois handicapé par des points faibles. La couverture politique chrétienne lui fait défaut, les deux principales forces de cette communauté ne l'ayant pas désigné. Plus grave encore, son nom est cité dans plusieurs affaires concernant des malversations et des abus de pouvoir. Homme de compromis, il aura comme principal interlocuteur dans la formation du gouvernement Michel Aoun. Mais sa tâche risque de ne pas être aisée, car le chef de l'État est intraitable dans le choix des ministres chrétiens et dans l'affaire de l'audit jurycomptable de la Banque du Liban. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Le Liban qui fait donc face à une terrible crise économique, mais il n'est pas le seul dans la région. L'Iran aussi peine à faire face et la situation est aggravée par les sanctions américaines. Les pénuries d'eau et les coupures d'électricité sont de plus en plus importantes et la colère gronde. Hier soir à Téhéran, des dizaines de personnes ont manifesté et crié des slogans anti-régime. C'est aujourd'hui que s'ouvre aux États-Unis l'enquête sur l'assaut mené sur le Capitole par les partisans de Donald Trump il y a 6 mois. La commission parlementaire chargée de l'instruction commence ses auditions aujourd'hui dans un climat de vive tension entre démocrates et républicains. Ces derniers accusent leurs rivaux de dominer cette commission. L'enquête sera donc partiale, affirme-t-il. Au Chili, décès de Fernando Caradima à l'âge de 90 ans. Cet ancien prêtre prédateur sexuel est accusé de nombreuses agressions sur des mineurs dans les années 80 et 90 dans une paroisse de Santiago. Ce scandale a bouleversé l'église locale et tout le pays. Caradima avait été renvoyé de l'état clérical en 2018 par le Vatican. La Russie resserre l'étau autour d'Alexei Navalny. Une cinquantaine de sites internet liés à cet opposant emprisonné ont été fermés hier. Une mesure qui vise ainsi à entraver les activités de ses militants à l'approche des élections législatives de septembre. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
À moins de 2 mois des législatives, les autorités russes ont porté un nouveau coup aux partisans d'Alexei Navalny. Son site internet, ceux de certains de ses proches comme Lyubov Sobol, ont été bloqués par la justice. En fait, tous les sites liés aux organisations qui gravitent autour de l'opposant sont devenus inaccessibles depuis la Russie. Pour Leonid Volkov, proche collaborateur de l'opposant qui vit en Lituanie et dont le site a également été bloqué, cette mesure a pour but de compliquer les activités de ses partisans avant les législatives de septembre. Une exception notable toutefois, le site du système de vote intelligent développé par l'opposant est toujours actif. En s'y inscrivant, les électeurs qui le souhaitent recevront pour chaque circonscription le nom du candidat le mieux placé en mesure de battre celui de Russie Unie, le parti au pouvoir. En juin dernier, la justice russe avait qualifié d'extrémistes les organisations d'Alexei Navalny, entraînant leur dissolution. D'autant plus que depuis le mois de juin, les collaborateurs de telles organisations risquent de lourdes peines de prison et sont inéligibles. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
En Birmanie, la junte parachève son coup d'État en annulant le résultat des élections de novembre 2020, élection qui avait vu la victoire du parti de la présidente Aung San Suu Kyi. Celle-ci n'était ni juste ni libre, assurent les militaires au pouvoir depuis le 1er février. L'information diffusée ce matin a surpris. Les deux Corées ont décidé de rétablir leur communication. Celle-ci avait été suspendue il y a 1 an, alors que les discussions intercoréennes étaient au point mort. Mais aujourd'hui, Séoul et Pyongyang disent vouloir restaurer la confiance mutuelle et avancer dans leurs relations. Un message positif donc, surtout à l'adresse du président américain Joe Biden. C'est aujourd'hui que s'ouvre au Vatican le procès sur l'acquisition d'un immeuble du quartier de Chelsea à Londres, une opération réalisée à travers un montage financier complexe et opaque de nombreux intermédiaires. L'audience de ce mardi sera technique et relative aux chefs d'accusation, détournement de fonds, corruption, extorsion, blanchiment d'argent, fraude et abus de pouvoir. 10 personnes sont sur le banc des accusés, dont le cardinal Angelo Becciu, l'ancien substitut de la secrétaire d'État. La guerre au Yémen se poursuit donc malgré les tentatives de médiations internationales. Aucune évolution n'est constatée. Il en est de même des conditions de vie des civils qui paient le prix le plus lourd des combats depuis des années. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est l'une des agences onusiennes qui intervient sur le terrain au plus près de la population. Jean-Nicolas Beuze, le représentant du HCR sur place, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Il revient tout d'abord avec nous sur les défis que l'organisation doit relever chaque jour pour ne pas abandonner une population qui manque de tout. On l'écoute.
Le défi est d'arriver à joindre ces familles qui sont déplacées dans tout le Yémen, souvent dans des endroits assez reculés, qui logistiquement sont compliqués. Une partie de ces déplacés sont très proches des lignes de conflit qui sont encore très actives et donc on ne peut ni mettre en danger notre staff, ni même les déplacés internes. Et surtout, il nous manque de l'argent, du financement humanitaire pour arriver à faire le minimum en faveur de ces personnes.
Concrètement, comment vivent ces personnes qui sont sous votre tutelle?
Une personne sur 8 au Yémen a été déplacée par le conflit et vit dans la misère. Souvent, c'est des tentes improvisées faites de briques et de brocs, de bouts de bois et de bouts de plastique pour se protéger un peu contre les éléments, contre le soleil, contre la pluie. La plupart n'ont pas de travail ou travaillent de manière très irrégulière pour vraiment très peu d'argent, qui ne leur permettent pas d'acheter suffisamment de nourriture pour manger 3 fois par jour. Donc la plupart des familles que je rencontre au Yémen ne mangent que du pain, parfois un peu de tomate, et s'ils ont un peu d'argent, ils achètent du riz. Mais c'est vraiment une nourriture de base qui est insuffisante et qui a vraiment un impact sur le développement des enfants en particulier, ou sur les femmes enceintes ou les femmes qui sont en train d'allaiter, qui ne peuvent pas donner assez de nutriments à leurs enfants en bas âge. La plupart n'ont pas de moyens de subsistance pour s'acheter des médicaments de base. Donc, quand ils ont des grands-parents à charge, il est impossible pour eux d'acheter des médicaments pour le cœur, pour la tension, etc., etc. C'est une situation vraiment très critique dans le sens où toutes ces familles n'ont très peu d'espoir pour l'instant de pouvoir retourner chez eux, de recommencer leur vie, une vie normale avec leurs moyens de subsistance qu'ils avaient avant le conflit, parce que le conflit perdure, le conflit continue à déplacer des populations, le conflit continue à tuer et à rendre des enfants, des femmes sans maison et parfois blessés indirectement par le conflit, des enfants qui sautent sur des mines antipersonnelles. Tout ce qu'on voit dans les pays en conflit, on le retrouve au Yémen, malheureusement.
Vous disiez que cette population n'avait pas d'espoir. Quel est son état d'esprit au-delà de ça? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est lasse? Est-ce qu'elle est résignée?
Je dirais que la plupart des Yéménis que je rencontre au quotidien sont abattus. C'est une lutte quotidienne pour arriver à trouver un peu à manger. C'est une lutte quotidienne pour garder un semblant de logement, donc ces tentes faites de briques de broc. C'est un défi quand un membre de la famille tombe malade. C'est un défi de trouver un travail chaque jour. Et ils ont peu d'espoir de retourner chez eux, dans leur maison. La plupart nous racontent que leurs maisons ont été détruites par le conflit, qu'ils n'ont aucun espoir de retourner chez eux dans les prochains mois, car le conflit est encore prévalent sur une grande partie du territoire. Et donc, je dirais que la population yéménite, pour le moment, se sent parfois abandonnée par la communauté internationale, abandonnée par ses propres autorités. Ils cherchent tous un espoir dans les négociations de paix, mais personne n'y croit vraiment.
Voilà, interrogé par Xavier Sartre, Jean-Nicolas Beuze, représentant du HCR au Yémen, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre écoute et de votre fidélité. On se retrouve à 13h, comme d'habitude, pour un nouveau journal d'information vatican et international. Belle journée à toutes et à tous.